What'd you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am serious. And don't call me sir.
There's no crying in baseball!
Forever.
Man, the meatloaf!
It's not a tumor.
Price is wrong, bitch.
Hey, the Schwartz, baby!
They're here. They hurt.
Spew into this.
Yeah, baby, yeah!
I'm the dude. What are you looking at, butthead?
It went down on the telephone.
I get old. They stay the same age.
Welcome to Jurassic Park.
I am the father.
Give this people a hand.
Robinson, you're trying to seduce me.
Ok, eh bien, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour Hugo.
Salut Gwen. Bonjour.
Bonjour. Alors, aujourd'hui, donc...
On n'a pas le droit d'avoir faim ni d'avoir froid.
C'est ça, tout à fait.
On est mercredi ?
Oui, toute la journée jusqu'à 23h59 et 59 secondes, où nous basculerons sur le jeudi, enfin... Si,
et le jeudi, il y a quoi le jeudi ?
Jeudi, ben, il y a Macaroni.
Non, il y a le rallye Monte Carlo.
Ok, super. Alors donc aujourd'hui, nous allons parler du polar français.
Mais... C'est ton choix.
Oui, enfin c'était surtout le tien, Evelyne. Mais du polar un peu plus moderne, parce que nous avions déjà fait une émission sur le polar en noir et blanc.
Oui, mais je ferai quand même un retour.
Oui, tout à fait. Oui, mais c'est pour ça que je te lançais la perche. Donc, mon cher Hugo,
bonjour.
Comme Sergueï Bouka, vas-y.
Donc, nous allons parler des polars à la France.
À la France.
Donc, on va parler des flics et des
voyous
tueurs.
Pourquoi les voleurs et les braqueurs, ils ont pas
le... Non, les truands, si tu veux, les serial killers aussi.
Ah, les serial killers.
Parce qu'après, il y a plein de films comme L627, tu vois.
Ah oui, tout à fait.
Putain,
oui.
Je me déshabille, c'est chaud, là.
Oh, my God. Oh, oh, yeah. Oh, oh, God. Oh, my God.
Donc je reviens, donc je vais commencer par le célèbre. Ouh, t'es perplexe, hein. Bon, c'est pas grave. Alors par le Quai des Orfèvres, parce que j'en avais déjà parlé, mais bon, moi j'aime bien.
De
Henri-Georges Clouzot, en 1947. Dans le genre du film noir à la française, il y avait un avant et un après Quai des Orfèvres.
Mmh.
J'ai un bonbon, hein, c'est dur à parler.
Tu as toujours un bonbon.
Oui, c'est vrai. Ou alors c'est mes dents. Bon, c'est pas grave. Jusqu'en 1947, l'incarnation de l'officier de police chargé d'une enquête se résumait souvent soit par l'imposant Harry Beau, t'as eu peur là, soit par la canaille Albert Préjean. En enfilant l'imperméable de l'inspecteur Antoine, Louis Jouvet crée un personnage inédit de limier tenace et alerte, fin analyste de la nature humaine qui saura démêler les chevaux d'une intrigue où la passion se mêle à la basse mesquinerie. N'est-ce pas, Gwen ? Rythmé essentiellement par des joutes verbales dont le cadre se limite bien souvent au bureau de l'inspecteur, Quai des Orfèvres évite le piège du théâtre filmé par son incursion maîtrisée dans le monde du music-hall parisien de l'après-guerre, avec ses artisans sincères ou pitoyables, pittoresques, qui jouent pour beaucoup dans le côté vérité du sujet traité. Magnifié par une photographie noir et blanc qui imprimera pour longtemps une image d'un Paris nocturne et brumeux, la réalisation de Henri-Georges Clouzot rejoint par sa gestion du suspens et dans certaines de ses inflexions, l'œuvre de son plus célèbre contemporain anglo-saxon, le plus célèbre... Hitchcock. Oui, il était à la cave, il n'était pas là aujourd'hui. D'ailleurs, Louis Jouvet n'est-il pas présenté comme un être ambivalent, cachant une certaine part d'ombre qui affleure parfois au gré du récit. Sans oublier la présence des piliers du cinéma français qu'était Bernard Blier.
C'est cela, oui.
Blier ? Non, oui. Blier.
Blier, oui.
Suzy Delair ou Pierre Lanquet. Larquet, pardon.
C'est pas Jean-Michel, mais... Okay.
Pierre Larquet, acteur dont les compositions d'être fragile et résigné sont pour beaucoup dans la réussite du film. Donc après, nous allons tout de suite parler... tout de suite, hein, pas de publicité.
Ah rien. Non, on a un qui.
D'accord, parce que bon, nous on est payé à la minute.
Député.
Du Rififi chez les hommes, de Jules Dassin en 1955.
Le père à Joe.
Oui, ça doit être ça. Mmh. C'est vrai ?
Oui.
T'es sûr ?
Oui. Bon.
Le chant du cygne, du cinéaste américain d'origine grecque, exilé en Europe pour cause de macartisme, et qui réalise là l'un des tout meilleurs polars français. Ce n'est pas le moindre des paradoxes d'un film qui recèle en son sein le plus beau des morceaux de bravoure, du genre la séquence du casse repris et copié par tous depuis, a commencé par Melville lui-même, et la plus belle des métaphores de l'état d'esprit d'un homme, Jules Dassin, exprimant son désespoir et sa tentative de compréhension d'avoir été dénoncé par celui qui fut son ami, Elia Kazan. Brillant et poignant. Je vous le recommande.
Merci.
D'accord, merci. Quoi, tu peux meubler pendant que je tourne mes feuilles.
La compilation des chanteurs inconnus, il aime boire et chanter, c'est Jean-Michel Torché.
Tu restes encore dans le noir et blanc ?
Oui, voilà, c'est ça.
Je vais vomir.
Allez, Technicolor.
Merci. Razzia sur la chnouf.
Oh, Razzia sur la chnouf.
De Henri Decoing. 1955 aussi. Série noire efficace et enlevée qui soutient la comparaison avec les meilleures productions hollywoodiennes du genre. Le film de Henri Decoing demeure une forme de témoignage sur la guerre souterraine qui se déroulait entre Condé et truands parisiens à une époque où le trafic de drogue ne faisait pas encore les premiers titres des journaux.
Ni les premières lignes.
Mais quel talent. Gasquet te remercie. Déclinant à nouveau son rôle de fort angle, autoritaire et expérimenté, mais néanmoins magnanime.
Toujours.
Initié dans Touchez pas au Grisby, tourné l'année précédente, Jean Gabin est le pilier inébranlable d'une intrigue qui joue habilement sur l'ambiguïté de son rôle. Vrai mauvais garçon ou flic infiltré, venu exploser le milieu de l'intérieur. Le duo qu'il forme d'ailleurs avec Lino Ventura, lui aussi déjà dans Touchez pas au Grisby, demeure d'ailleurs assez emblématique de cette volonté de rester sur la corde raide, voire même son comportement avec les femmes. Adaptant un roman d'Auguste Le Breton, un des maîtres du genre avec Albert Simonin et Georges Simenon, où la gouaille prédomine, Henri Decoing choisit d'en faire une peinture quasi exotique mais néanmoins violente d'un Paris nocturne où le crime s'installait durablement et le jazz commençait à s'imposer dans les clubs. Mais, si on peut regretter une fin de partie un peu téléphonée, Razzia sur la chnouf porte la griffe de ses faiseurs de bons cinoches d'antan, au sens noble du terme, et demeure au panthéon des classiques du genre précurseur. Merci. Il était dur à dire ce mot. Par les thèmes qu'ils abordent et aussi d'un style qui finira par phagocyter le cinéma français tout entier.
Tu connais des mots, toi. Phagocyter.
Oui. T'as vu ? Ça vient de fagot. Celui du dialogue argotique et de la réplique qui tue, dont le chantre sera Michel Audiard.
Écoute, on te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours.
Je vais reprendre mon souffle pour vous parler du deuxième souffle de Jean-Pierre Melvin.
Et à ne pas confondre à bout de souffle.
Oui, 1966. Les gangsters parlent peu, les flics bavardent, le cadre est précis, le noir et blanc coupant, mais les sentiments sont bouillants. Le Melvin du deuxième souffle est déjà dans la recherche de l'épure absolue du genre, mais avec la touche française qui éclate dans le verbe de Paul Meurice et la mine patibulaire de Lino Ventura. Du polar de terroir entre Paris et Marseille, jamais vulgaire, toujours d'une maîtrise qui frôle la minutie. Dans son récent remake, Alain Corneau part totalement à contre-pied. Démarche osée, intelligente, mais qui mène droit à la catastrophe. Comme moi aujourd'hui. Donc là, je vais attaquer avec la couleur.
Technicolor.
Yeah. Donc, le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville aussi, 1970. Pour beaucoup, il s'agit non seulement du chef-d'œuvre de Melville, c'est dur à dire, Melville, bon, c'est pas grave, mais aussi du plus grand des polars à la française. Il faut dire que les arguments sont nombreux, à commencer par le casting impressionnant entre gloires attendues, de longs montants et choix miraculeux. C'est terrible, j'arrive pas à parler. Et choix miraculeux. Bourville, Gian Maria Volante. Il ne manque sans doute que Lino Ventura, un temps présent dans le rôle du commissaire Mattei. Ça dit quelque chose, le commissaire Mattei?
De toute façon, c'est toujours des commissaires Mattei.
C'est marrant, hein. Ouais. L'histoire est précise et ample. La mise en scène ne cesse d'enchaîner les tours de force, dont les fameuses 25 minutes de casse entièrement muette. Une œuvre que l'on ne cesse de redécouvrir en s'émerveillant à chaque fois aussi bien de sa quasi-perfection que de l'intensité surprenante de la performance d'André Bourville. Flick Story maintenant, on va attaquer avec Alain.
Ah oui, Alain Delon.
Oui. Flick Story de Jacques Deray, 1975. Au milieu des années 70, Alain Delon est arrivé au zénith de sa popularité. S'étant assuré le soutien des meilleurs spécialistes au hasard Jean-Pierre Melville, José Giovanni ou Henri Verneuil, il a tour à tour interprété toutes les figures imposées du « bad guy ». Dans le genre policier, passant aisément du tueur froid au gangster chevaleresque, en passant par le penseur
de Rodin ?
Non. Le perceur de coffre-fort.
Bien connu, le perceur. Le perceur de Rodin.
Tu te calmes, Camille Claudel.
Ah non, c'est pas le penseur de Radin. Le perceur de Radin, c'est mieux.
Il m'énerve. Je te louperai point une prochaine fois. Plus rare à être du bon côté de la barrière, le seul à son actif étant celui du commissaire dans le dernier film de Jean-Pierre Melville. Le passable, un flic, en 1972, il décide d'interpréter avec brio une figure de la police française, à savoir l'inspecteur Borniche. Véritable légende, Roger Borniche possède le palmarès le plus éloquent dans le domaine de la répression du banditisme, avec pas moins de 567 arrestations sans jamais user de son arme, puis une carrière d'écrivain prolifique tout à la gloire de son action, dont 4 seront portés à l'écran. Adaptant l'épisode de la traque d'Émile Buisson, truand psychopathe qui se fit bien souvent la belle, interprété ici par Jean-Louis Trintignant, Jacques Deray, assisté par Alphonse Boudard au scénario, prend le parti de la sobriété et du respect de la réalité historique. Bon choix, car à partir de ce simple postulat d'enquête policière classique, Flick Story brosse le portrait d'une société française qui, au sortir de la guerre, cherche à établir de nouvelles bases où la question de la peine de mort est posée, et nous présente un Alain Delon moins unidimensionnel qu'à l'accoutumée, entretenant une forme de respect et de fascination pour son adversaire. C'est terrible la respiration, j'en avais plein la bouche. Au point de la suivre jusqu'au pied de la guillotine. Par la suite, la nuance sera moins marquée et Alain Delon redeviendra avec Jean-Paul Belmondo le parangon de la justice immédiate et expéditive, en adéquation avec une forme de sensibilité politique, chose qui lui collera pendant bien trop longtemps au basque. Donc, vu qu'on parle de Bébel, ben, je vais vous parler quand même de ce nanar fort célèbre, Peur sur la ville.
Ah oui. Le scorpion.
Oui, de Henri Verneuil, 1975. Archétype du polar populaire hexagonal, le film de Verneuil est basé sur des ingrédients à l'efficacité assurée. Jean-Paul Belmondo, au fait de sa gloire, incarne l'indispensable flic doux, dur et dingue. Pour véhiculer sa star, le réalisateur emprunte chez Bullitt, French Connection et l'inspecteur Harry, pour citer les plus évidents. Les moyens financiers sont conséquents et l'œuvre se révèle spectaculaire. Tu sais, moment là, quand ouais, il est sur le métro parisien en plein air.
Ouais, mais de toute façon, c'est-à-dire que c'est un peu le défaut des films français, c'est qu'on veut tenter d'imiter les Américains, mais
comme c'est pour dire que nous aussi, on sait faire quoi.
Oui, mais je dirais que
le dernier Alien a été fait par
un français, oui,
Jean-Pierre Jeunet. Bon, ouais, bah, alors on peut y arriver si on nous donne les moyens.
Oui, non, mais ça c'est des moyens américains. Là, on parle de films vraiment exclusivement français.
Pas très loin du record des diffusions télé, Peur sur la ville demeure un des chouchous du public français. Peu importe son manque d'originalité, son charme reste intact. Je vous parlais donc de Police Python 357 de Alain Corneau, 1976.
Avec Yves Montand.
Tout à fait, mon petit. Véritable révolution au moment de sa sortie, le film d'Alain Corneau demeure celui qui enfin ose mettre les gros flingues à l'affiche d'un film français et qui, par son fétichisme avoué envers l'arme de référence, entretient une forme de paternité avec MR73.
Oui, pas faux.
merci. Les deux films partagent d'ailleurs d'autres similitudes. Éteindre aussi par leur portrait central de grand flic en proie à ses démons, la peinture d'un milieu bourgeois et provincial d'une profonde noirceur, ainsi que par un flou artistique laissé sur les frontières qui délimitent les territoires que se partagent les défenseurs de l'ordre et les truands. Impressionnant dans son rôle de colosse au pied d'argile, Yves Montand fournit dans Police Python 357 une de ses meilleures performances d'acteur, aux prises avec les machinations de son supérieur, interprété par François Perrier, ambigu et machiavélique à souhait, sans oublier les prestations de Simone Signoret, de Stefania Sandrelli et surtout celle de Mathieu Carrière, second zélé mais néanmoins impuissant à la lente glissade vers le drame. Alain Corneau ajuste méthodiquement les éléments de l'intrigue avec précision, sans négliger le suspense, développe toute une thématique de l'environnement de ces êtres dépersonnalisés qui se raccrochent à des objets ou des postures iconiques et laisse éclater toute la violence dans un final anthologique et spectaculaire digne d'un inspecteur Harry qui, loin de tout résoudre, laissera toujours autant planer...
Le doute.
Non, les ombres du doute.
Ah oh, oui, les ombres du tout.
C'est bien ça. Hein.
And the next.
C'est La Balance de Bob Swain.
Ah oui.
Swain, pardon.
Ouais, ouais.
1982. Le film de Bob Swain, gros succès en son temps, contribua à la métamorphose du polar français dans les années 80. Pour le meilleur et pour le pire, plus rude et plus réaliste, mais aussi plus outré. Les performances inoubliables de Philippe Léopard et de Nathalie Baye, tous les deux
Léotard,
d'ailleurs récompensés au Léotard. César. J'ai dit qui ?
T'as dit Léopard.
C'est vrai ?
Oui, t'as dit Léopard.
Ah,
Léopard.
Ah, oui.
Le frère.
Oui. Donc, tous les deux récompensés au César ont permis à La Balance de plutôt bien supporter le poids des ans. Certes, la mise en scène n'est pas à la hauteur, l'histoire n'a pas toute sa solidité nécessaire. Néanmoins, la vision âpre du boulot des flics se retrouve aujourd'hui encore dans les films du genre. Et pour terminer avec moi, parce qu'après je m'en vais... Alors, scène de crime de Frédéric Schoendoffer, 1999. Donc, moribond depuis des années, si on accepte le vétéran Corneau et son réussi le cousin. Tu avais vu ça avec Patrick Timsit
oui,
et
oui,
Alain Chabat. Ce qu'on appelait un cousin, un mec
voilà,
qui renseigne.
Voilà, c'est un indique, le terme argotique de l'indique.
D'accord. Le polar français reprend du poil de la bête à la fin du millénaire avec un film de Frédéric Schoendoffer. Avec scène de crime, le cinéaste reprend les codes narratifs de son père sur la 317e section, qu'on avait déjà parlé aussi, et nous plonge littéralement au cœur de l'enquête comme si nous étions nous-mêmes un inspecteur aux côtés des excellents Dussolier et Berling. Un manifeste de mise en scène que Schoendoffer exploite à merveille et ce jusqu'au bout. Bon, grand premier film, scène... Oui, c'est son premier film aussi, parce que son père, je crois qu'il s'appelait Pierre Schoendoffer. Bon, grand premier film, scène de crime, a l'immense mérite d'avoir extrêmement bien vieilli, n'ayant pas ainsi à rougir de se retrouver dans pareil classement de moi-même, personnellement.
En tant que personne propre.
Oui. Si tu veux rajouter quelque chose...
Non, sur cette époque-là, pas trop, non, j'avoue. Moi, j'ai plus fait sur les années qui ont suivi, plus les années 2000.
C'est vrai ?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, moi, après, je... Voilà quoi.
C'est ton choix, Evelyne.
Oui, oui, tout à fait, c'est mon choix. Disons qu'il est vrai que... On a été quand même écrasé par ce cinéma américain qui nous a sorti tous ces policiers et notamment tous ces fameux films des policiers à deux, c'est-à-dire comme
souvent binôme.
Voilà, non mais L'Arme fatale ou voilà. Non mais c'était la fameuse
Harry,
technique.
Harry, il est tout seul. Hein.
Tango
facile.
Cash. Non, je oui, te parle des films des flics à deux. C'est-à-dire que techniquement ils sont à deux. Sinon effectivement j'aurais dit en mode solo.
Non mais il est à deux Harry, c'est parce qu'il meurt. C'est
non, mais, non mais ce que je veux dire c'est que si tu te retrouves avec ce fameux duo où effectivement ils ont deux méthodes différentes, je dirais quasiment diamétralement opposées, et que pour une enquête ils se retrouvent effectivement à bosser ensemble. Donc et il a fallu attendre, je pense, l'arrivée d'un petit réalisateur d'abord, hein, qui a pas mal travaillé sur des séries, avant de se lancer lui-même en tant que réalisateur. C'est Olivier Marchal.
Ah oui ?
Oui, tout à fait, parce qu'Olivier Marchal...
T'as pas mieux avant ?
Avant, non, ça va être un peu dur de me trouver mon petit peu.
Non, mais je voulais dire pas mieux avant comme réalisateur. Pas comme,
ah oui,
comme
oui,
Jean.
Non, bah il y en a sûrement. Hein. Si, il y a Tavernier, bien sûr, avec son fameux L627 qui ressemble plus à un documentaire qu'un véritable film.
Oui, mais c'est
film.
Sur un groupe, quoi.
Oui, mais c'est un groupe et tout.
Sur
à
les
fait.
Stupes.
Voilà, c'est ça, avec Samuel Le Bihan.
Charlotte Caddy.
Caddy, voilà, c'est ça. Donc voilà, mais non, moi, c'est surtout dans la forme que ça donne. Parce que dans son premier film, Gangster, où on voit Richard Anconina et, comment il s'appelle, Anne Parillo, qui s'est sortie de Nikita et l'autre de La Vérité si je mens, ou Ciao Pantin pour les plus anciens. Dans ce film Gangster, en fait...
2002.
Voilà, c'est ça. Le personnage de Richard Anconina et le rôle d'Anne Parillo, qui joue une prostituée, Nina Olgado, en fait, sont techniquement passés à tabac. C'est pas vraiment... Il y a un interrogatoire un peu poussé, dirons-nous, selon les termes en vigueur. Et en fait, parce qu'ils sont accusés d'un crime, d'un hold-up, où il y aurait eu 7 victimes, et que 5 flics les interrogent, et 2 sont des ripoux, et ils voudraient bien récupérer le butin de 100 millions...
De dollars.
Non, d'euros.
Donc, Olivier Marchal, donc, c'est un ancien, comme il faut le dire, inspecteur de la brigade criminelle de Versailles et de la section antiterroriste. Mmh. Donc, il raccroche les menottes dans les années 90 pour vivre de sa passion. On peut dire qu'il a eu des débuts télé dans Police District, quai numéro 1.
Oui, mais voilà, c'est ça, il faisait pas mal dans les séries.
On le retrouve aussi au cinéma dans Ne réveillez pas un flic qui dort. Mmh. Très bien aussi, ça c'est sûr.
Oui, mais parce qu'il a le physique et puis le...
Fidélité Police, là. Voilà. Et donc, on profil bas aussi, il me semble, tiens, on a vu dedans. Il réalise aussi donc son premier court-métrage, Un bon flic, basé sur ses expériences de policier. Qu'après, je crois que c'est un peu la même lignée que Gangster, là, le premier.
Voilà,
que
c'est
disais.
Ça. Bah, en fait, le truc d'Olivier Marchal, c'est-à-dire que c'est pas un cinéma, je dirais, comment on pourrait dire ça sans être péjoratif,
flamboyant.
Moi, je dirais pas flamboyant, mais c'est pas un super grand réalisateur. Je veux dire, il n'y a pas une intrigue transcendante. On n'est pas, comment ça s'appelle, à Usual Suspect. Mais il est vrai que
il s'intéresse plus au personnage de.
Voilà, c'est ça. Lui, c'est plus la vérité. Et c'est ça son avantage à lui, c'est qu'effectivement, faisant partie de la maison, comme on dit, il a pu vraiment faire des films qui parlent, comme Diamant 13, avec notre russophile national, GG, hein, Gérard Poutine Depardieu. Dans Diamant 13, son personnage, Matt, est flic dans la 3e division de la police criminelle. C'est un personnage évidemment très fort, parce qu'il y a souvent des personnages forts dans les films de Marshall, et qui est attiré par les abysses, hanté par ses fantômes. Et en fait, il a, comme souvent dans ses films, parce que c'est souvent des films assez noirs hein, quand même, il a perdu l'illusion que la vie peut être superbe, lumineux, jusqu'au jour où son vieil ami, Frank Novak, alors ça c'est très marrant parce que, alors je sais pas si t'as remarqué, mais soit les personnages ont des noms corses, soit polonais. Alors c'est des Novak ou des Matei, et donc il reçoit l'appel de son vieil ami Frank Novak, qui est donc joué là pour l'occasion par Olivier Marchal, qui lui évidemment lui propose un plan, le fameux plan qui lui va lui permettre de prendre sa retraite, Olivier Marchal, hein. Puisqu'évidemment on tombe dans le classique, c'est-à-dire que le flic fait son boulot proprement, mais il voit que les gangsters s'en sortent toujours et vivent vachement mieux qu'eux, donc effectivement voilà.
C'était en 2009 ça.
Voilà, c'est ça. Et Matt, donc le personnage de Gérard Depardieu, évidemment se retrouve coincé et bientôt, en fait, il va être entouré par ce qu'on appelle un carré de dames. Et donc, les rouages d'un système corrompu qui coûtera la vie à son unique ami. Donc, à vraiment à voir. C'est vraiment
C'est le film le plus cher du réalisateur, là, Gilles.
Oui.
Gilles Béa.
Ouais, ouais. Et puis, c'est vrai qu'il y avait aussi, effectivement, comme tu le rappelais au début, ce fameux film 36, Quai des Orfèvres aussi. Donc,
oui.
Là, avec Daniel Auteuil et Gérard Depardieu. Décidément André Dussolier et ce fameux aussi acteur qu'on voit désormais souvent dans les rôles de flic, Roche Dizem. Lui par contre on en reparlera un peu plus longuement,
oui.
Mais c'est vrai qu'effectivement lui je pense que il représente...
Ou dans les polars en général.
Oui, 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 mais c'est ça, moi je pense qu'il représente évidemment le nouveau policier français quoi. Donc voilà, c'est dans 36 quais des Orfèvres, en fait l'histoire, je dirais pas banale, mais classique, d'un gang de braqueurs qui attaquent en force. Et effectivement, ce qui représente évidemment l'ère moderne, c'est qu'ils sont de plus en plus violents. On n'attaque plus à la petite mitrailleuse, on attaque carrément au truc anti-char. Et donc, Klein, le patron de la PJ, qui n'est autre que de...
André Dussolier.
Merci. Qui donc décide, puisqu'il est proche de la retraite, que celui qui arrivera à faire tomber ce gang prendra sa place. Donc on a On a donc deux personnages qui vont se combattre, Daniel Auteuil, Léo Vrix, qui est le patron de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention, qui va devoir combattre son ancien ami Gérard Depardieu, Denis Klein, patron de la BRB, donc de la Brigade de Répression du Banditisme. Et effectivement, là, tout va les opposer, leur vie, leur façon de voir l'existence, leur équipe, et surtout une femme, Camille Valeria Golino. Donc ça, c'est vraiment un très beau film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Celui que je préfère, je t'avoue, de tous, d'Olivier Marchal, c'est Les Lyonnais.
Ah oui ?
Ouais.
Parce qu'il y a aussi MR73, t'as pas parlé.
Bah vas-y.
Oui. Non, parce que juste encore un mot sur 36 Quai des Orfèvres, parce que je crois que le film a été racheté par les Américains.
Ah ouais.
Pour faire un remake.
Ouais, ouais. Mais ça, il y a un autre film, effectivement. C'est l'avantage du cinéma français, puisqu'on en avait parlé, seuls eux arrivaient à tenir la dragée haute au cinéma américain. C'est vrai qu'ils ont pas mal de scénarios. Là, il y avait eu le film, je crois, c'est Une nuit blanche, et qui avait été repris. On avait tourné le film 3 jours avec Russell Crowe, qui avait été un gros navet.
On avait inquiété.
Oui, 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 enfin, on avait, c'était un terme générique.
Oui, c'était un navet, d'accord. Donc l'année 2008 marque pour Olivier Marchal son retour derrière la caméra, où il retrouve Daniel Auteuil sur le percutant MR73. Donc MR73, le titre évoque le revolver Manurin MR73 en dotation dans la police nationale avant l'adoption du SIG Sawyer SP2022. Le 2022, ça veut dire qu'ils ont les droits. La date limite de consommation est prévue jusqu'en 2022.
D'accord.
Après, ils pourront changer d'arme.
C'est-à-dire que tu es obligé de jeter ton arme.
Non, mais ce que je veux dire, après, c'est un nouvel appel d'offres pour un nouveau contrat.
Ah oui.
Parce que SIG, je crois que c'est une marque suisse, et Sawyer, c'est un truc allemand. Donc, le synopsis de ce bon film aussi, il faut le dire. Donc, Schneider, qui est joué par Daniel Auteuil, est un flic marseillais devenu alcoolique après l'accident de voiture à la suite duquel sa fille est morte et son épouse est devenue tétraplégique. Depuis, il survit en bénéficiant du soutien de moins en moins évident de sa supérieure. L'ambiance avec certains de ses collègues est de plus en plus complexe. Quand il parvient à résoudre les enquêtes, les catastrophes vont de pair. Donc, un meurtrier sanguinaire qu'il avait arrêté plus de 30 ans auparavant, je crois, est libéré, il me semble.
Oui, tout à fait. Oui, il est par le jeu des remises de peine, il est libéré. Et là, va revenir dans sa vie une jeune fille, Justine, qui est jouée par Olivia Bonamy. Et en fait, ce tueur n'est autre que Charles Soubra. Il est joué par Philippe Naon, qu'on retrouve dans Kaamelott sous les traits de Gaston le Cruel, pour ceux qui sont adeptes. Donc c'est effectivement un film très très noir. Olivier Marchal rejoint un petit peu Alexandre Arcadi dans ses fresques entre guillemets familiales dans Les Lyonnais, puisqu'en fait on va voir dans sa jeunesse passer dans la misère des camps de gitans Edmond Vidal, qui est joué par Gérard Lanvin, dit Maman, a retenu les sens.
Maman
a retenu le sens de la famille, une loyauté sans faille et la fierté de ses origines. Il a surtout conservé l'amitié de Serge Sutel, qui est joué par Chiqui Cario. Excellent. L'ami d'enfance avec qui il a découvert le monde de la prison pour une stupide histoire de vol de cerises. Avec lui, il plonge dans le grand banditisme et crée le gang des Lyonnais, qui va avoir un grand succès. Alors, c'est pas une sortie, hein. Ça veut dire. Hein. Voilà. Ils ont été connus surtout dans les années 70, et en 74, c'est la fin avec une arrestation spectaculaire. Edmond décide d'arrêter, il a quasiment 60 ans.
67 ans.
Il a 67 ans, si tu veux.
Non, mais c'est l'âge dans le film, hein, monsieur.
Oui, non, mais tu veux la soixantaine. Oh là là, qui est précis. Depuis qu'il travaille avec Grissom, il est précis. Non, c'est terrible.
Oui.
Donc il arrive dans la soixantaine passée. Il a envie de vivre tranquillement et surtout avec son épouse. Et par contre, lui, Sutel, lui a décidé que non, il était un bandit et qu'on continue. Il est menacé.
Oui, parce qu'il a fait des trafics de drogue.
Voilà, c'est ça. Parce que lien d'amitié va être l'obliger Gérard Lanvin à libérer son ami avec l'aide de Lionel Astier, qui joue le personnage de Danny.
C'est frère Alexandre, ça, Astier ?
Non, c'est le père. Ah. Et bien d'ailleurs, quand ils sont jeunes, c'est Simon Astier, donc son fils, qui joue son propre rôle.
C'est marrant.
Enfin, du moins, son rôle de jeune. De Danny jeune, quoi. Moi, je trouvais ça très beau, ce film, parce qu'effectivement, on a vraiment l'histoire d'une fresque. C'est-à-dire que c'est souvent ça dans les films, j'ai remarqué, français de polar, dans ce style, c'est qu'il y a beaucoup une histoire de famille. La famille a un clan, famille les enfants, puisque là MR73 c'est pareil, la fille disparue.
La police est une grande famille.
Oui, ça aussi, puis c'est vrai que ça me fait penser aussi à un autre réalisateur qui est un peu dans le même milieu. Oui, vas-y.
Non, c'est juste parce que là je vois que tu vas repartir sur un autre film, juste pour rajouter un mot sur... Donc parce qu'il faut dire que c'est la rencontre à la base entre Olivier Marchal et Edmond Vidal, parce que bon, c'est quand même tiré d'un fait réel, hein, il a existé le monsieur, qui a donné envie donc à Olivier Marchal...
Le Grand des Lyonnais.
Oui, de faire le film. Donc c'était, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, Gérard Lanvin qui jouait déjà en 1980 l'adaptation télévisuelle de cette affaire, donc ça s'appelait La Traque. Et donc ce film aussi, Olivier Marchal a rendu hommage par ce film à Bernard Giraudot. Parce que c'est Bernard Giraudot qui devait jouer le rôle de Checky Cario.
Oui, tout à fait.
Et vu qu'il est disparu.
Oui, à cause de son cancer.
Voilà.
Donc voilà, parce que c'est vrai que moi, quand je pense quand je vois les Lyonnais, je pense à Alexandre Arcadie avec ses histoires, le Grand Pardon 1 et le Grand Pardon 2,
oui.
Évidemment. Et puis surtout, dernièrement, comme les 5 doigts de la main. Donc ce film avec l'histoire de 5 frères, ouais, voilà, c'est ça, de 5 frères. Enfant d'un ex-patron ou d'un ex-caïd, comme on dit. Donc voilà, et parce que en fait, ils sont semblables et pourtant différents, élevés par une mère devenue veuve trop tôt. L'un d'eux, Vincent Elbaz, s'éloigne de la maison et ne reparaît que poursuivi par des gangs de trafiquants. Enfin, un gang de trafiquants, du moins. Il se réfugie par les miliciens, porteur d'un terrible secret. Et effectivement, on a quand même l'acteur fétiche d'Alexandre Arcadie, Patrick Bruel, qui joue le chef de famille.
Il est pas mal, je trouve, d'ailleurs, là-dedans.
Oui, ben moi...
Non, je préfère au cinéma que quand
moi,
tu
chantes. Oui, ben moi j'ai toujours dit qu'il était meilleur acteur que chanteur. D'ailleurs, en passant, j'ai regardé le prénom dernièrement, et bon, ben, désolé Anna, mais je sais pas. Voilà, désolé.
C'est normal, tu es cynique.
Voilà, tout à fait, oui.
J'ai bien aimé le choix du prénom.
Oui, tout à fait. Non, mais franchement, il est excellent ce film. Les rebondissements sont très bons.
Oui.
C'est vrai qu'on a quand même quelques réalisateurs fétiches, donc Olivier Marchal. Sans parler évidemment, puisqu'on en avait déjà un petit peu parlé la dernière fois, de sa superbe série Braco, avec Jean-Luc Anglade. Franchement, moi, c'est une série fétiche. Et, d'ailleurs, je remercie Canal Plus d'avoir osé faire cette série. Voilà.
Tu t'écoutes pas, toi,
non, mais je m'en fous. Non, mais avec Nicolas Duvauchel, qui d'ailleurs a pu démarrer grâce à ça, hein, parce qu'on le voit désormais dans plusieurs films.
Il est très sympathique, même j'ai pu le rencontrer encore.
Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que son nom de personnage s'appelle Théo Wachewski. Encore un prénom polonais.
Ils ont tous des prénoms dans la série, bah qui est énorme.
Oui, mais c'est ça, Delgado.
Même celui qui a les cheveux, la rasée, un peu paupiette, là, comment il s'appelle.
Walter Mollergheim.
Oui.
Bah, c'est-à-dire, c'est un peu le côté.
Et t'as la fille, là, comment il s'appelle, Carole Rocher. Là.
Ouais, Roxane Delgado.
Voilà.
Voilà, et puis évidemment, Jean-Luc Anglade, c'est Eddie Kaplan, le fameux Eddie Kaplan, qui sont poursuivis par un des chefs de l'IGS. La police des polices,
oui,
Roland Vogel.
Qui est terrible dans la saison 2. Terrible.
Ouais. Oui, il est terrible.
Vivement la 3 là, qui sort en 2013.
Ah ouais, franchement. Non, mais c'est-à-dire que c'est ça, moi, ce que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'avantage de s'immiscer un petit peu sur le terrain des Américains pour ce qui est représentation de la violence et de la vérité. Mais on a l'avantage de ne pas dire qu'on se fait écraser par les moyens justement financiers, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des poursuites parce qu'il faut faire des poursuites, on est obligé de faire de la violence parce qu'il y a de la violence. C'est intégré dans l'histoire, mais c'est pas obligatoire. Ça reste quand même, moi je dirais, alors ça va pas être péjoratif, je dirais que moi ça ressemble vraiment à des films familiales.
Les films familiaux, ça s'accorde.
Familiaux, merci. Parce que moi, je voulais aussi parler du Un Prophète. Non, de
juste deux secondes pour revenir sur Braco. C'est juste pour dire que Olivier Marchal, ça a été le créateur. Il a fait aussi le scénariste, mais après, il y en a eu plein d'autres aussi.
Oui, mais tout à fait, oui. Parce que, donc, Un Prophète.
Puisque aussi, excuse-moi de te recouper, j'aime bien te couper, ça fait rire. Non, pour finir avec les séries Canal+, puisqu'il y a aussi Pigalle la nuit. Qui est dans le milieu arménien, et qui est aussi sublime, il faut le dire. Donc merci à Canal+, si vous m'entendez,
appelez-nous. Merci à Canal+, parce qu'ils ont osé, ils ont fait d'autres séries qui sont excellentes.
Oui.
Voilà.
Il y a encore une série, excuse-moi Gwen, tu viendras avec ton prophète.
Voilà.
c'est aussi, il a participé à la série Centrale Nuit.
Oui, tout à fait.
Qui est avec Michel Créton,
voilà,
et qui est aussi très bon.
Et
quoi.
Voilà.
Ah pardon, tu voulais en parler.
Oui, non, du tout, mais il y a ce fameux acteur François Leventhal qui aussi joue pas mal dans
Et on a vu les débuts de Clovis Cornillac aussi,
voilà,
dans cette série.
Et voilà, Oui, c'est vrai. C'est
au début, ça, il devait faire 145
ouais,
kilos.
C'est, ça.
C'est marrant maintenant quand tu le vois. Hein.
Ouais. Je crois qu'on l'appelait le Viking d'ailleurs.
Oui.
Hein,
si il y a bien. Vanessa Desmouilles dedans.
Oui, c'est ça. Ah bah, ça. C'est d'autres pectoraux. Ça,
du Cijan aussi.
Voilà, c'est ça. Donc, Un prophète de Jacques Audiard avec Taha Rahim. Donc, l'histoire d'un jeune qui est condamné à 6 ans de prison. Malik ne sait ni lire ni écrire. Et à son arrivée en centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Il n'a que 19 ans. D'emblée, il tombe sous la coupe d'un groupe de prisonniers corses qui fait régner sa loi dans la prison. Le jeune homme apprend vite au fil de ses missions. Il s'endurcit et gagne la confiance des Corses. Mais très vite, Malik a l'intelligence de créer son propre réseau. C'est vrai que c'est pas un film vraiment sur l'univers de la prison. Hein. C'est plus une histoire d'hommes avec cette violence cachée, souterraine. Il y a le film Nuit Blanche de Frédéric Jardin en 2011. C'est l'univers des ripoux, on n'est plus dans les ripoux avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte. C'est un flic qui vole un gros sac de cocaïne à des trafiquants, mais il est identifié au cours de l'opération. Les truands kidnappent son fils, donc c'est la cocaïne contre le fiston, et il a une nuit pour pouvoir faire l'échange. Alors là, Thomas Sisley, qui joue le...
Ah oui.
Julien Boisselier, qui joue le flic qui va lui courir derrière, qu'on avait vu sous les traits d'Henri IV. Et aussi Joe Star. Serge Rea Bukin, évidemment, qui joue le méchant Marciano. Donc voilà, ça c'est vraiment un film excellent. Il y a un bon superbe rythme. Il y a un petit défaut, c'est qu'effectivement, il y a des personnages secondaires qui ne sont pas vraiment une utilité vraiment grandiloquente. Je dirais que c'est un peu des bouche-trous. Quoi.
Donc je continue avec Truand.
Mmh, vas-y.
En 2007, réalisé par Frédéric Schoendoffer. Donc Paris de nos jours, dans le milieu du grand banditisme, Claude Corti, 50 ans, est l'un des rares hommes de pouvoir du métier. Proxénétisme, trafic de stupéfiants, faux billets, voitures, raquettes, etc. Braco aussi. Il sait tout ce qui se passe dans sa zone d'influence et prend une commission sur tout. Seule la violence lui permet de survivre. Franck, 30 ans, est proche de Corti, mais tient à son indépendance. Intelligent et efficace, Claude a confiance en lui. Donc parallèlement, la bande de Hicham et Larbi prend de plus en plus d'ampleur et commence à empiéter sur l'empire de Corti. Donc, mais lorsque Corti est condamné à 3 ans de prison, le fragile équilibre qu'il a créé vacille et certains parmi ses proches entendent profiter de la situation. Donc c'est une histoire vraie d'un parrain parisien, Claude Genova, que le réalisateur il s'est amusé puisqu'il y a pas mal de similitudes avec donc le même prénom, la même façon de torturer ses ennemis avec l'utilisation de perceuses électriques dans les articulations.
Ouais.
Oui, c'était l'univers du banditisme. Même univers mêlant arabe et manouche. Qui se terminera par une trahison, même mort assassiné au fusil à pompe dans le dos par deux truands pendant une permission de sortie de prison en compagnie de sa femme. Et enfin, comme dans la réalité, l'un des tueurs fut tué et l'autre s'exila et échappa ainsi à une mort funeste.
Puisque là, on va tomber un petit peu, on va appeler la page Roche Dizem. Déjà, bon,
présenter le monsieur.
Oui.
Ah, tu peux pas ?
Oui, non, mais...
Attends, j'ai une phrase. Donc c'est un fils d'immigré marocain qui entame sa carrière par les planches d'abord et décroche un rôle en 1987 dans Les Keufs de Josiane Balasko. Dès lors, l'acteur se construit une filmographie variée, n'hésitant pas à passer du film d'auteur aux comédies populaires. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, on retrouve dans 36 quais des... Voilà, d'Olivier Marchal qui le propulse un peu.
Oui, mais là, parce que justement, moi je parlais du film à bout portant.
Oui, je l'ai vu.
De Fred
oui,
Cavaillé en 2010. Donc l'histoire, tout va mieux dans la vie de Sam, Gilles Lelouch et de Nadia. Tout va très très bien. Lui, il est
Madame
infirmier, elle attend son premier enfant, donc comme je disais. Mais tout bascule lorsque Nadia se fait kidnapper sous l'œil impuissant de Samuel. À son réveil, son portable sonne. Il a 3 heures pour faire sortir de son hôpital, là où il travaille, un homme qui est sous surveillance policière. Hugo Sarta, grand figure du grand banditisme.
Sarta,
oui. Ouais. Et en fait, ce n'est autre que Roche Dizem. Et voilà. Et le flic qui va le poursuivre n'est autre que Gérard Lanvin.
C'est énorme. Hein.
Voilà. Alors par contre, moi, il y a des critiques qui m'ont dit que...
Elles t'ont dit personnellement.
Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, à bout portant, séduit par son rythme, sa mise en scène, plusieurs scènes sont formidables, dont une magnifique course poursuite dans le métro,
oui.
Par écran vidéo interposé. Mais il a le défaut, c'est dans le personnage de Lanvin, qui en fait des tonnes et tout. On a l'impression que...
Il surjoue un peu, ouais. Bah, moi, on se demandait s'il se préparait pas pour jouer les Lyonnais, quoi.
Oui, mais voilà.
Parce que t'as vu, il a la même...
Oui, mais tout à fait.
Même book et tout.
Ouais. Mais je pense que, ouais, effectivement, ouais.
Hein, ça se demandait. Ça, ouais. Donc c'est juste pour dire aussi, en 2010, il a eu le festival, au Festival International des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz. Il a eu le prix du meilleur acteur pour Roche Dizem.
Moi, j'ai Une Nuit, de Philippe Lefebvre.
Oui, c'est bien ça aussi.
Donc, Simon Weiss. Donc Roche Dizem, commandant de la brigade mondaine, entreprend comme chaque soir sa tournée des établissements de nuit. Une nuit pas comme les autres. Weiss comprend vite qu'on veut le piéger. Pris entre tenailles, entre la police et les voyous, Weiss va devoir défendre, affronter flics, hommes d'affaires et malfrats. Donc il est secondé, entre guillemets,
Sarah Forestier.
Par Sarah Forestier, son amitié avec Samuel Le Bihan, et puis la présence aussi de Richard Bourringer en tant que
Oui.
Donc celui-là il est excellent. Les gens aussi là m'ont dit que effectivement très très bon film, excellent film. Mais par contre le problème c'est qu'il était vite, je dirais un petit peu indigeste. Il a tendance à être un peu trop long. Mais voilà, pour moi c'est vrai.
Mais l'intrigue est bonne quand même.
Oui, non mais l'intrigue est bonne. Hein, je dis
la
pas
fin
ça,
est
mais
surprenante.
Voilà c'est ça. Ah oui tout à fait. Mm. Moi ça là, m'a bien surpris.
Donc pour vous donner du rythme, si vous voulez, vous pouvez regarder Go Fast. En 2008, d'Olivier Van Gestatt. Pour venger son meilleur ami mort en service, le policier Marek devient Slimane en infiltrant un réseau de trafiquants de drogue. Ceux-ci utilisent des bolides pour convoyer la drogue entre Malaga et Paris, appliquant la technique dite du Go Fast. Le ministère de l'Intérieur a directement participé au film, notamment en formant Roche Dizem. Le héros conduit, pour les aficionados des grosses voitures, le héros conduit une Audi RS4 dotée d'un moteur V8 à injection directe de 420 chevaux, un des modèles les plus performants de la marque à la sortie du film.
Oui, il paraît qu'il y en a un qui était sur la 7 là dernièrement.
Ah aussi.
Il a tapé un petit 300 là. Il paraît.
Ah bah c'est tentant quand t'as une boîte là, qui marche.
Bah oui, c'est ça.
Et là
et
aussi,
surtout,
je trouve
il y a de la bonne ligne droite.
Le film est quand même.
Ouais, non mais voilà.
De A ça. À Z, tu t'ennuies pas. Quoi.
Bah c'est-à-dire que moi c'est un mélange de tous ces réalisateurs, c'est-à-dire qu'effectivement on a l'univers noir d'Olivier Marshall, un type qui en plus qui a quand même travaillé dans le milieu, donc c'est techniquement de quoi il parle et qui fait appel à pas mal à ses années de service. Et puis tous ces réalisateurs aussi, que ce soit Frédéric Jardin, Fred Cavalier, Jacques Audiard aussi, Alexandre Arcadi. Il y avait aussi Philippe Lefebvre, il y avait aussi Monsieur Jolivet aussi, qui nous en avait fait deux petits jolis, puisqu'effectivement là on retombe main armée. Donc avec Roche Dizem évidemment, oui. Donc Lucas qui a 46 ans, un grand flic qui lutte contre le trafic d'armes à Marseille, et Léa Bekti, Maya, qui a 25 ans et qui est elle flic au stup à Paris. Comme souvent les armes et la drogue se croisent et Lucas va croiser Maya, pas forcément par hasard. Flagrant délit, braquage indiquent leur vie aussi. Parce que leur histoire a commencé bien longtemps avec leur rencontre. Et là, effectivement, on tombe dans un cas, je dirais pas pour l'instant unique, mais c'est vrai que peu de cinéma en a parlé, du moins en France, puisque aux États-Unis c'est autre chose. C'est effectivement ben voilà, le rapport père-fille,
oui.
Évidemment, puisque Lucas et Maya sont père et fille, donc voilà.
Mais qu'il a pas reconnu, je crois.
Voilà, c'est ça, et effectivement, bah oui, il y a un petit peu de différence, sinon ce serait pas marrant, tu t'en doutes bien.
Il est bien, ce film.
Oui, il est pas mal. Et donc Pierre Jolivet aussi avait fait Fred en 1997 avec Vincent Dindon, comme tu dis, qui est un grutier au chômage et qui vit dans une ville nouvelle avec Lisa, Clotilde Cureau, qui pouvait jouer, puisqu'elle n'était pas encore mariée, avec son prince de Savoie. Donc, qui est plus jeune que lui, qui est mère d'un petit garçon, standardiste dans un laboratoire d'analyse médicale. Enfin, quoi qu'il en soit.
Bon film français.
Voilà, c'est ça. Voilà. c'est Vincent Dindon. Hein. On pouvait pas s'attendre moins de sa part. Lui, il est carrément miné par l'inactivité. Et à un moment, un de ses potes va lui proposer un petit truc, un petit boulot. Et il va vite se rendre compte qu'effectivement, c'est un petit peu chelou. Moi aussi, un film que j'aimerais bien parler et que j'ai vu dernièrement, Le Guetteur. de Michel Placido, avec Daniel Auteuil qui joue le fameux Mattei, hein, on en revient toujours, et avec Mathieu Kassovitz qui joue un sniper. Et celui-là, il est excellent parce que en fait, évidemment, Daniel Auteuil va avoir un gang là, et effectivement, au moment de coincer ses braqueurs, et ben il y a un sniper qui tire sur son équipe. Et donc il va le rechercher, il y a un coup de fil anonyme qui va le dénoncer, ce sniper, et faire croiser un autre personnage qui est joué par Olivier Gourmet. Et là,
terrible.
Il est terrible.
En médecin ?
Ah oui, en médecin, oui, enfin en médecin...
médecin boucher, ouais, voilà, recruteur reconnu. Véreux.
Voilà, c'est ça, effectivement. Et là, il va y avoir un beau trio.
Ça kill hein, quand même.
Ouais,
aussi,
ça kill. Ah, bah, ouais,
personnages
ouais.
Principaux ramassent aussi.
Oui, c'est ça. Et puis je pense qu'il y a aussi... voilà, parce qu'il y a...
Là aussi, il y a les manouches.
Oui, voilà, bah c'est ça, oui, tout à fait. Et puis,
c'est marrant, on dirait que les gangs parisiens. Bah, avant, on ne se tient pas assez au courant de l'actualité du banditisme parisien.
Ouais, non, mais bah, tu sais, hein, si tu vas chez les Américains, c'est souvent dans les ghettos. Donc, les ghettos sont quand même. Voilà, je ne veux pas dire que. Tu sais, il faut faire non plus des clichés, il faut tomber dans le cliché, mais bon, voilà, c'est sûr que. Mais non, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ce film, ça a vraiment été une surprise.
Bon, le scénario est un peu décousu quand même.
Ouais,
parce que
ouais.
Des fois, t'as l'impression il part un peu dans tous les sens. Et
oui,
il se perd,
ça, ça, c'est vrai que oui, effectivement, il y a des trucs que tu dis.
Qu'est-ce
ouais.
Que ça fait là ou... mais, bah, bon. Mais il est pas mal quand même.
Non, mais il est pas mal. Moi, je dirais que c'est un peu le défaut, effectivement, de ce que je disais. C'est les cinémas français a quand même réussi à créer des personnages troubles qui ont quand même tenté d'avoir des ambitions artistiques, des visions moins naïves qu'à l'époque, parce qu'on est quand même sorti de Navarro et de Julie Lescaut quand même.
Heureusement.
Hein. Donc voilà quoi.
De Corinne Touzé.
Il y a des grandes fresques comme les Lyonnais, des pitchs de l'espace en nuit blanche, un style comme une nuit, de la mise en scène à bout portant. Et c'est vrai que les réalisateurs français ont compris qu'effectivement, il fallait prendre, et c'est grâce à Olivier Marchal, prendre dans les faits réels, les romancer, évidemment. Et puis voilà, mais je pense qu'ils ont encore du travail un petit peu à faire. Et d'ailleurs, j'espère bien qu'ils n'iront pas à l'américaine parce que... C'est très bon, c'est des films beaucoup d'action. On a vu dans Lawless ou dans les Gangster Squad qui va pas tarder à sortir.
Dans Gangster.
Gangster Squad, pardon, qui va bientôt sortir. C'est
et aussi Fast and Furious 6.
Oui. Oui, mais c'est ça un petit peu le défaut des Américains. C'est-à-dire que.
On sait plus où s'arrêter. Parce que... Tu sais pourquoi ils refont un 6 ? Parce que le 4 et 5, ils sont gavés de thunes, quoi.
Bah oui, non, mais.
C'est énorme. On refait un film pour la thune, quoi.
Non, mais...
c'est...
Non, sans blague. Ah
non,
bon
oui, je suis choqué.
Ah bon, bon j'aurais pas cru. Non, mais moi, disons que là, je veux un peu sans doute me répéter, puisque je l'ai dit plusieurs fois.
Oui, tu l'as dit, oui.
Mais c'est ça. Mais oui, mais moi, pour moi, c'est important. Je pense qu'ils ont un complexe d'infériorité vis-à-vis des Américains. Mais je trouve qu'il est quand même mieux d'avoir des Olivier Marchal que des films style L'Arme Fatale. Bon, là, c'est vraiment dans le style commercial ou dans le truc un peu comique.
Oui, c'est plus comédie policière.
Mais, ouais, mais que... moi, je trouve que le problème, sans parler des films comme Drive, ben, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là où moi, je trouve qu'il y a c'est trop axé sur la violence, trop axé sur les poursuites.
C'est du grand spectacle, après.
Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est des grands spectacles et on ne sort pas de... Alors,
mais ça va en faire aussi, si tu prends Elle est Confidential
ou
Jack Reacher, ce qui est sorti.
Voilà, c'est ça.
Et ben, Usual Suspect
ouais,
aussi.
Oui, mais là, on tombe dans des grands classiques. C'est Jamel Roy pour Elle est Confidential. On a les d'autres. Mais voilà, John Reacher, c'est le truc parfait. C'est-à-dire que là, le truc, c'est on n'a plus à faire... Un adversaire, on a affaire à une entreprise. Tu vois, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est impersonnel. Dans le film français, c'est toujours personnel. Et t'as l'impression que, je dirais pas qu'on tombe dans la nouvelle vague, mais on a l'impression qu'effectivement, ces bandits, je veux dire, sont crédibles. C'est pas les Tony Montana où tu dis que le mec il a une super villa, on peut pas les toucher, c'est des mecs hors.
C'est une réalité ça.
Non mais je sais que c'est une réalité. Mais ouais, enfin bon, c'est une réalité, oui et non, parce que je veux dire.
Si, c'est une réalité.
Non mais oui, bien sûr qu'il y a sûrement des types comme ça, je suis d'accord avec toi. Mais bon, voilà, moi je dirais que ça donne des accents de vérité. Que, voilà. Après, quand on regarde un film américain, on dit bah oui, c'est du cinéma. Après, effectivement, sur les Français, je dirais qu'on ne tombe pas dans le documentaire, mais c'est entre les deux. Je dirais que c'est le de Olivier Marchal, version nouvelle vague.
Oui. Et aussi, donc, pour, moi, je voudrais parler aussi d'un film où ça met une femme en valeur. C'est un peu rare, hein, en polar, je pense.
Enfin, si, parce qu'il y en a, mais... Non, mais c'est-à-dire que ce n'est pas des personnages principaux.
Non, mais moi, qui joue le rôle de femme flic.
Oui, non, non, mais voilà. Non, mais
parce que dans le Getter, tu as vu ce qui lui arrive à la commissaire.
Oui, tout à fait. Oui, mais même, je veux dire, dans Une Nuit aussi, Sarah Forestier, elle est quand même, elle est quand même importante. Quoi.
Oui, oui.
Mais c'est-à-dire que... Et puis, c'est souvent des femmes fortes. Je veux dire, comme les cinq doigts de la main aussi, la mère a quand même un personnage très fort.
Donc là, ça sera le petit lieutenant de Xavier Beauvois,
ah oui, exact.
2005. Donc c'est Antoine, jeune lieutenant, donc découvre la police judiciaire à Paris dans un service de criminels avec le commandant Caroline Vaudieux, oui, qui est joué, donc, comme tu dis, par
Nathalie Baye.
Ex-alcoolique et toujours en proie à un drame familial. Antoine découvre petit à petit la vie à l'intérieur et à l'extérieur d'un commissariat avec ses joies, ses interrogations, ses déceptions. Donc il découvre sa première enquête criminelle après la découverte d'un cadavre de SDF polonais.
Oui, décidément, c'est polonais. Mais non, non, et puis je m'en rappelle...
Et dedans, je crois qu'il y a Roche Nizem aussi.
Oui, oui. Mais moi, je m'en rappelle aussi d'un film avec comment ça, Josiane Balasco, qui avait fait...
Les keufs
oui, ouais, c'est ça. Non, non, pas les keufs. Et ouais, effectivement, elle s'était maquillée, rendue très laide. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas vraiment des univers de femmes. Pourtant, il y a quelques réalisatrices femmes qui se sont lancées sur ce terrain-là. Mais effectivement, ouais, pour l'instant... ouais, c'est
ah, pour dire comme police.
Voilà, c'est ça. Et puis, bah, on n'en est pas à Corinne Touzé. Hein. C'est oui. Pas une femme d'honneur, quand même.
Oui, c'est vrai qu'il y a police aussi, on n'en a pas parlé, mais...
Ouais, ouais. Mais c'est-à-dire que moi, je trouve que effectivement, les Français s'en sortent bien, et je dis que
et on su renouveler le genre. Aussi.
Voilà, c'est ça. Et puiser évidemment dans le, c'est qu'à le dire dans le milieu, dans la terre du milieu, comme on dit.
Pardon, si tu nous écoutes.
Voilà, c'est ça. Oui, bah d'ailleurs, bientôt, il va sortir Elijah Wood en tueur en série là. Dans Maniac. Donc voilà, c'était le point. Et d'ailleurs, justement, si tu as encore quelque chose à dire, ou sinon on va parler de quelques petites sorties.
Non, bah non, on a tout conclu, voilà. Donc on est assez content.
Oui, non, moi je suis assez content. Moi, franchement,
il y a vraiment de bons films. Quand
voilà,
même.
C'est ça. Moi, je
tout ce qu'on a trié est bon.
Voilà, hein. C'est ça. Toute la filmographie policière de Roche Dizem, puisque il a fait d'autres films, mais bon, là, on parle des policiers. Donc, c'est à voir. Une nuit, Nuit blanche, les films d'Olivier Marshall. Faut absolument les voir.
Même les anciens que j'ai cités en noir et
oui,
blanc.
Oui, tout à fait. Oui.
Ah,
oui,
parce que c'est bien de comparer aussi.
Oui, c'est vrai, pour voir l'évolution. Alors, en sortie, puisque le Pestel est encore en vacances, moi j'ai Un prince presque charmant de Philippe Lelouch.
Ah, oui, oui.
Voilà, le frère à Gilles. C'est avec donc, le personnage de Jean-Marc, qui est joué par notre Vincent Pérez, notre corbeau national, quadra carriériste et pressé, qui ne cherche qu'à satisfaire ses intérêts personnels, va croiser, malgré lui, la route de Marie Vanina Giocante, qui jouait dans le film La Blonde au sein nu et Bel Ami en 2009. Tous les opposent, elle est éprise de justice et de liberté, ils n'auraient jamais dû se croiser. Alors ça, c'est la love story du moment, évidemment, le classique du cinéma, le mec, je pense qu'à mon pognon, la nana, je pense qu'à ma liberté, évidemment, tu dis, c'est pas possible, ils vont pas s'aimer, et paf
c'est un genre de coup de foudre et compagnie qu'on
voilà,
a eu.
Voilà, c'est ça. Une autre histoire d'amour, et qui non, d'ailleurs s'appelle Une histoire d'amour, d'Hélène Filière, avec Benoît Poulvorte et de Laetitia Casta. C'est une femme qui la rencontre un soir de printemps, elle est devenue sa maîtresse, il lui a offert un revolver, elle, une combinaison en latex. Alors, si vous voulez du film Sado et Mazo, c'est le bon film. Parce que Benoît Poulvorte, enfin, un homme d'affaires, qui je crois la 138e fortune de France après avoir joué les mecs de leur rue, les SDF, effectivement, quelle ascension sociale en peu de films. Et effectivement, il y a cette histoire très sadique entre ce personnage de Benoît Poulvorte, qui est un homme puissant et qui aime se faire maltraiter, et Laetitia Casta, toujours aussi magnifique, ma foi.
Qu'on a pu voir dans Arbitrage aussi,
ouais, ouais,
en maîtresse.
Ah oui, tout à fait, oui, de Richard Gere.
Non, c'est pas deux, c'est avec.
La maîtresse de Richard.
Ah, pardon.
Oui, mais effectivement, le film avec Richard. Merci. Comme à Lyon, de Samuel Collardet, Dmitri a 15 ans, il vit au Sénégal. Il rêve de jouer dans un grand club, donc Barça, Chelsea. Hein. Et un agent le repère. Malencontreusement, il faut payer, sa famille se cotise, il part en France, et à Paris, là, bam, échec, il se retrouve sans le sou, mais il ne veut pas rentrer parce qu'il ne veut pas affronter la honte de revenir sans rien, et donc, à un moment, il va rencontrer un homme dans une toute petite équipe et qui va lui donner sa chance. Donc très très beau film.
D'accord, mais c'est un film sénégalais aussi ça que tu parles?
Non, 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 il y a un autre film sénégalais.
Ça s'appelle Aujourd'hui, c'est ça?
Oui, bah vas-y,
c'est
ouais.
De Alain Gomis, quoi. Voilà. Mmh. Ah, tu l'as vu, non? Il est pas mal, il se parle.
Non, non, mais voilà.
Il y a Aïssa Maïga aussi dedans.
Oui,
et,
ce qu'on avait vu dans Les Poupées Russes.
Oui, Dakar, donc la ville familière, grouillante, colorée, la famille, les amis, son premier amour, la manifestation.
Les manifestations, oui.
Oui, sûrement, oui. Donc ses aspirations. Aujourd'hui, Satché doit...
mourir.
C'est bien, il a été choisi. Aujourd'hui, Satché vit comme il n'a jamais vécu. Donc, c'est le troisième long métrage d'Alain Gomis. Je ne sais pas si c'est le père du footballeur.
Voilà, c'est
non
ça, moi aussi. J'ai vu ça.
Qui joue à Lyon, bon, peu importe. Donc, troisième long métrage d'Alain Gomis est une ode plus sensuelle que morbide à la beauté du monde, à ses couleurs, à sa musicalité et à sa drôlerie parfois absurde. Donc,
oui,
c'est un super bon film, mais
oui,
trop
puis...
poétique.
Oui,
ce qui paraît, ben, ça fait trop furbe, peut-être.
Oui, et puis, je pense qu'il y a aussi, pour ceux qui adore l'Afrique, franchement, c'est un film à voir. Si vous aimez le Sénégal,
oui,
il y a
oui,
vraiment.
Par contre, je pense qu'il passera peut-être au pastel.
Ouais, je pense qu'il y a vraiment une ode à cette ville. Hein. Franchement, il doit être super. Non, moi, je pensais à un autre film.
J'ai encore le temps pour une comédie française, monsieur.
Oui, tout à fait.
Bon, alors, je crois qu'il va passer au cinéma à 10 parce que j'ai vu l'affiche. Ça s'appelle Alceste, la bicyclette
ouais.
De Philippe Le Guay avec Fabrice Lucchini, Lambert Wilson et Maya Samsa, il me semble. Donc Serge Tanner était un grand comédien avant de se... C'est joué par Lucchini, hein, Serge Tanner.
Ah.
Était un grand comédien avant de se retirer des feux de la rampe. Trop de stress, comme moi, l'a poussé un beau jour à prendre la décision de mettre fin à sa carrière. Depuis 3 ans, il vit en solitaire sur l'île de Ré, avec notre ami Jospine, passant le plus clair de son temps à sillonner à vélo ce pays. Son confrère Gauthier Valence, dont la carrière est au sommet, se prépare à reprendre le Misanthrope de Molière.
C'est Lambert Wilson.
Oui, bah oui. Et souhaiterait voir Serge dans le rôle titre. Le Guay signe une comédie désenchantée, Bonjour Mylène, pleine de ses regrets qu'on ne pourra plus effacer. Donc aussi, on va passer du côté américain pour parler de Foxfire, confession d'un gang de filles, de Laurent Canté. En fait, c'est peut-être un film français. 1955, dans un quartier populaire d'une petite ville des USA, une bande d'adolescentes crée une société secrète, Foxfire, pour survivre et se venger de toutes les humiliations qu'elles subissent. Avec à sa tête
Vivien Leigh.
Oui, leur chef adulé, ce gang de jeunes filles poursuit un rêve impossible.
Un raid.
Non, un rêve.
Un rêve.
Impossible, vivre selon ses propres lois. Mais l'équipée sauvage qui les attend aura vite raison de leur idéal. Donc c'est un film intelligent et bouillonnant. Le cinéaste traque sur un tempo de thriller à la tension parfois terrible, les limites les plus contestables de leur révolte, aidée dans sa démarche par une magistrale troupe d'actrices majoritairement non professionnel. C'est ça qui est bien dans ce film aussi. Mmh. Donc Laurent Canté met sa mise en scène au service de son histoire et filme avec justesse, ampleur et cœur la défaite de ses petites sœurs qui sont aussi les nôtres.
Tout à fait.
Donc j'espère qu'il passera au pastel aussi celui-ci.
Voilà, tout à fait. Eh bien, mes chers auditeurs... voilà.
Ah, puis aussi, je voulais dire, puisqu'on en parle, on va en profiter pour... faire de la publicité. Donc sur Facebook, vous pouvez nous retrouver aussi sur le Arrête ton cinéma. Donc vous reverrez aussi plein de sorties.
C'est Arrête ton cinéma RDIWA.
Oui.
Voilà.
Voilà, il m'a encore coupé. Donc vous pouvez retrouver toutes ces affiches qu'on vient de citer et des films aussi, que ce soit tout genre,
voilà,
science-fiction et tout.
Et tout, oui, parce que là aussi, il va y en avoir des grosses sorties, mais plus vers le mi de l'année.
D'accord, donc Radio DIWA 107.5 FM, www.rdawa.fr. C'est très bien.
Voilà.
Numéro de téléphone
09 52 368 531.
Vous pouvez toujours appeler. Cette année, il n'y aura pas de tata.
Oh non, non, là, on se les fait cramer.
Oui.
Voilà, tout à fait. Eh bien, donc, on va se quitter.
Oh,
et donc, la semaine prochaine,
oui.
On avait fait donc, la France, on avait fait les States. Là, on a un petit peu parlé de l'Afrique. Et là, on va aller plus du côté de l'Est.
En Amazonie.
Non, de l'Est, j'ai pas dit de l'Ouest.
Ça dépend par où tu pars. tard.
Oh oui, c'est vrai que ça dépend au moment où on va s'arrêter.
Tu peux prendre le transsibérien. Hein.
Oui, tout à fait. Et bien justement, en parlant de transsibérien, on va s'arrêter dans ce grand pays qui est la Russie. Et la semaine prochaine, nous allons parler du
fameux... Tarkovsky.
Voilà, de Tarkovsky, Andrei. Et, voilà, et donc, comment dire, hein, bah, Dasvidania.
On va amener la vodka.
C'est ça, voilà, tout à fait. On va avoir une bonne petite migraine, les gars. Mais avec modération,
oui.
Cela va s'en dire.
D'accord.
Voilà, c'est ça. Je ne sais pas qui c'est, cette modération, mais il est toujours là. Oui. Donc, voilà, chers auditeurs, merci. Et à la settimana prossima.
C'est italien ?
Si.
En russe, ça donne quoi ?
Je ne sais pas, mais je te le trouverai si tu veux.
C'est vrai ?
Oui.
Allez, au revoir.
Allez, ciao.